Bonjour Caroline Brouet et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour notre retour sur du vendredi, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission diffusée pour la première fois en mai de cette année consacrée à la radicalisation des jeunes filles. À la lumière des événements tragiques que la France a connus le 13 novembre, il se peut que leurs témoignages paraissent encore plus choquants que lors de leur première diffusion. Choquant mais nécessaire, peut-être même utile de les écouter cependant. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Un des traits communs à un grand nombre de jeunes djihadistes ou apprentis djihadistes auxquels les bons connaisseurs ont pu parler, ceux qui forment le gros des troupes, la chair à canon de l'État islamique, est une incroyable naïveté. Les témoignages se recoupent, les histoires sont identiques. Les jeunes se laissent d'abord embarquer dans un rêve, porté par un idéal. Ils s'engagent aussi par amour, aussi étonnant cela puisse-t-il paraître. Ils sont prêts à mourir pour sauver leurs proches, pour emmener avec eux au paradis 70 âmes de leur connaissance. La violence, les armes, les décapitations viennent après, parachever l'endoctrinement, galvaniser, couper du monde, rendre l'engagement irréversible. Mais dans un premier temps, ils ont trouvé une cause à épouser, un but à poursuivre. Comme le dit Olivier Roy, le djihad est aujourd'hui la seule idéologie globale disponible sur le marché. Alors le choix est vite fait, il n'y a rien d'autre. Ce qui ne signifie pas qu'il faille sous-estimer le danger qu'ils représentent pour eux-mêmes, leur entourage et surtout le monde entier, comme nous l'avons vu, hélas, cette semaine tragique. Parmi ces endoctrinés, décervelés, petits et grands califes, chefs de guerre et autres psychopathes, les femmes, souvent des jeunes filles, représentent une proportion significative. Elles seront des califettes ou seulement destinées à assurer une descendance aux djihadistes. Selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en mai de cette année, 457 Français, dont un très grand nombre sont jeunes, étaient présents en Irak et en Syrie. Parmi eux, 137 étaient des femmes, dont 45 des jeunes filles mineures. Les deux jeunes filles que vous entendrez aujourd'hui ne sont pas arrivées jusque-là, mais peu s'en faut. Elles ont été rattrapées in extremis par la justice, par leurs parents, par des amis. Elles ont ensuite été confiées à Dounia Bouzar, qui dans sa structure nommée Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, essaie de les remettre dans le bon chemin. C'est un reportage de Leïla Djitli dont je vous précise encore qu'il a été enregistré et diffusé pour la première fois en mai 2015.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Quand j'avais 9 ans et demi, j'ai fait une dépression due à mon père qui était tombé dans l'alcool. Et du coup, je me suis dit qu'il faut bien croire en quelque chose. Du coup, à 9 ans et demi, j'ai lu la Bible, la Torah, le Coran. Et le Coran m'a le plus touchée. Du coup, je me suis reconvertie à 10 ans et demi. Donc à 10 ans et demi, je me suis convertie, donc je l'ai fait toute seule dans ma chambre. Devant ma fenêtre, je m'en rappelle.
C'est vrai.
Ouais, j'étais en train de regarder le choc, j'étais en train de marcher, et puis j'ai décidé de shahed. C'est dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ». Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son messager. Et du coup, quand on dit ça, on se convertit. Ben voilà, je me suis convertie pour la première fois dans ma chambre, et comme j'avais peur que ça soit pas officiel, je me suis reconvertie aussi à la mosquée avec l'imam, mais il n'y a pas longtemps, c'était en janvier 2013. Franchement, je pense que si j'avais pas eu la religion, je serais plus en vie à ce moment-là, parce que comme j'avais fait une dépression, j'ai essayé plusieurs fois de me suicider, donc voilà quoi.
Parce que le quotidien était trop difficile à supporter.
C'est dur, je voyais des choses que des gosses de 9 ans doivent pas voir, quoi. Donc, c'est dur.
L'alcoolisme de votre père, c'est ça?
Il y avait des violences. Donc, pour moi, la religion, c'est comme une corde, en fait, et on doit s'y raccrocher parce que, à un moment, si on lâche, on tombe, et si on tombe, ça fait mal. Et donc sans la religion, ouais, je pense que je ne serais pas là à l'heure d'aujourd'hui. Quand j'avais 11 ans, je l'ai dit à mes parents. Je ne l'ai pas vraiment dit. Je suis arrivée directement voilée devant elle et franchement, c'est pas la meilleure solution. J'avais le voile intégral. Je suis rentrée comme ça, ouais, et puis ben, du coup, ma mère, elle a rigolé dans un premier temps. Parce que, elle pensait que je m'étais déguisée. Et du coup, quand je l'ai dit, après, je mangeais plus de porc, rien. Elle a commencé à se poser des questions. Puis je me suis acheté un Coran. Je me suis acheté des livres sur l'islam. J'ai commencé à aller sur Internet, à parler avec des musulmanes. Parce que, on a besoin de ça. Sinon, je pense que c'est plus compliqué pour tenir dans la religion. Puis, du coup, ça l'a pas trop fait au début, quoi. Elle a jeté mes voiles, elle les a cachées, mais je les ai retrouvées à chaque fois. Du coup, elle a fini par les jeter. Ça a été compliqué au début. Finis ton jambon, mange ton porc. Mais ça fait que depuis janvier 2015 là, que j'ai le droit de porter le voile, de faire bien la prière, de pas manger de porc. Bon, la viande halal, c'est encore compliqué, mais voilà.
Et à l'école, comment ça se passait ?
C'était un cas social. Je parle à personne, j'aimais personne. Donc je me dis que si je traîne trop avec des non-musulmans, ma foi elle baisse. Et j'ai pas envie qu'elle baisse, parce que c'est ça qui m'aide à me tenir debout. Du coup, j'évitais au maximum d'être avec les gens, mais je m'en portais pas plus mal. Hein. Au collège, c'est des gamins. Et au lycée aussi. La foi, c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Et puis quand on l'a, je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a non plus. À l'heure d'aujourd'hui, je me vois plus vivre sans foi, sans croire en quelque chose, sans avoir quelque chose en quoi me raccrocher ou pouvoir me confier à quelqu'un comme ça sans qu'il me le juge. Enfin, il me jugera, mais pas de la même façon que l'être humain, en fait. Donc, je trouve que c'est une aide, c'est super important. Pour moi, sans foi, l'être humain n'est rien, donc...
Comment s'est passé votre contact avec les radicaux ?
En fait, je cherchais à me marier. Parce que j'avais envie de construire ma famille, d'être tranquille en appartement, tout. J'avais envie d'avoir mes responsabilités, d'avoir un bébé, d'avoir mon mari, d'être tranquille. De pas me prendre la tête avec les gamineries, genre des gens au collège. Ah ouais, tu sais que Thibaut, il est sorti avec Juliette et tout, machin. Ça, c'était comme ça tout le temps. Du coup, j'avais envie de tout plaquer pour pouvoir tout recommencer, quoi, et quelque chose de mieux. Après, j'avais 13 ans, mais là, je fais pas tout, il y a la maturité aussi. Et du coup, je suis tombée sur un homme qui m'a plu. Il n'y avait pas de photo, on a juste discuté comme ça quelques temps, par Facebook pour commencer. J'ai vu sur son Facebook qu'il avait mis genre « Lyon cherche Lyon » pour mariage et pour émigrer après, comme c'était ce que j'avais envie, quitter la France et me marier. Je me suis dit, c'est le gros lot, quoi. Du coup, on a commencé à discuter et puis on a voulu se marier directement. Et en fait, on s'est lâchés l'un à l'autre. Et en l'espace de 2 mois, il s'est complètement radicalisé, il a complètement changé. Il était passé de « j'aime tout le monde » à « je veux tuer les gens ». Je pensais que c'était pour la déconner, parce qu'on avait bien rigolé et tout. Du coup, quand il m'a dit qu'il voulait partir, moi j'ai pris ça comme une blague, quoi. Pour moi, c'était complètement délirant. Je pensais pas, quoi, du coup. Après, je suis pas dans sa tête, mais il m'avait dit qu'il avait parlé avec des frères et qu'il voulait construire un orphelinat en Syrie. Et du coup, comme moi, je l'aimais, je me suis dit, s'il veut partir, c'est que c'est bien pour lui. En fait, j'ai pas eu de nouvelles de lui pendant quelques temps parce que j'avais pas le droit d'avoir Internet. Et un jour, j'ai réussi à avoir quand même... Et il m'a fait « ça y est, je suis partie en Syrie ». Et moi, j'ai rigolé parce que je n'ai pas cru. Puis après, j'ai pleuré parce que j'ai commencé à me dire qu'il m'avait donné des pistes, mais que je n'avais pas su saisir les indices qu'il donnait, quoi. Et puis après, j'ai dit que j'allais le rejoindre. Forcément, j'aurais tout fait pour lui. J'étais prête à quitter ma famille, quitter tout ce que je connaissais pour partir dans un pays où je ne connaissais personne, où je ne connaissais pas les coutumes ni la langue. Je voulais partir rejoindre mon futur. Le plus loin, j'ai été en Allemagne. Et au final, il y a des sœurs, des musulmanes qui m'ont hébergé. Du coup, elles m'ont payé un billet de train, elles m'ont ramené chez moi. Et elles m'ont fait jurer que je rentrais chez moi et que je partirais pas, quoi. J'ai pas réussi déjà à y aller. Et de toute façon, il m'a dit qu'il fallait pas que je vienne. Parce que c'était la misère là-bas, il avait pas envie que je vive ça. Il a tout fait en fait pour pas que je parte, mais j'avais envie de le rejoindre, j'avais pas envie de le laisser tout seul, j'avais envie de m'occuper de lui, de faire le ménage chez nous, d'avoir des bébés, j'avais envie de plein de trucs avec lui, j'aurais tout fait franchement. Et puis ben, ça s'est pas fait quoi, parce qu'il est mort.
Tu as appris le décès de ce garçon avec lequel tu voulais te marier?
Ben, en fait, sur Twitter, des fois, ils postent des photos des martyrs. Et des fois, ils mettent les noms au-dessus, enfin, les prénoms, ou les cunias, comme on dit, genre Abou, machin. Et j'ai vu sa tête, en fait. Ben, au début, j'étais contente. Je me suis dit, il est mort martyr. Franchement, au début, j'étais contente, pendant quelques minutes. Et puis après, je me suis dit que ben, je pourrais plus lui parler, du coup. J'ai fait une dépression et j'ai pas mangé pendant 15 jours, j'ai pas bu. J'ai quand même voulu le rejoindre, j'étais prête à y aller en courant en Syrie pour le voir une dernière fois avant qu'ils soient enterrés, quoi. Et ben, je suis toujours en France, donc ça n'a pas pu se faire.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je me suis fait arrêter à Paris, alors que je devais rejoindre un frère qui devait m'amener jusqu'en Suisse. Et de la Suisse, après, je vais prendre un avion. Partir en Grèce, prendre le bateau pour partir. Après, voilà. Mais en fait, j'ai fait l'idiote parce que je suis restée à Euroline de 6h à 14h. Du coup, ils ont remarqué que j'étais toute seule comme ça et j'ai une tête de gamine, quoi. Du coup, on voit que je suis pas majeure. Les flics, ils sont venus 10 minutes avant que le frère il arrive. Voilà.
Comment tu expliques que tu es passée d'une pratique de l'islam à la radicalisation?
Mais après, j'ai voulu regarder des vidéos pour me renseigner, pour savoir ce qui se passait là-bas. Et je suis tombée sur une des vidéos où ils avaient décapité, c'était passé aux infos, ils avaient décapité plusieurs personnes qui étaient habillées en orange comme à Guantanamo. Et en fait, depuis que j'ai vu la vidéo, j'ai eu des délires un peu psychopathes. Je rêvais tous les jours que je shootais dans leur tête. J'avais des envies de meurtre. À chaque fois que je voyais un avion, je faisais Allahu Akbar et tout. Je me tapais des barres, quoi. Et puis, je sortais jamais sans mon couteau ou des choses comme ça. À chaque fois que je voyais quelqu'un de pas musulman, je m'imaginais l'égorger comme ça en pleine rue. Et puis, je me foutais avec sa tête. J'étais vraiment partie dans un délire complètement abstrait, on va dire. Et ouais, du coup, j'ai demandé à ma mère de l'aide, quoi, parce que j'avais besoin, je dormais plus. À chaque fois que je dors, je fais des cauchemars, genre j'imagine ma mère se faire décapiter et ma sœur se faire brûler juste devant mes yeux. Du coup, bah là, je suis obligée d'être sous traitement pour pouvoir dormir, sinon je dors pas.
Alors, comment tu es arrivée ici, dans cette cellule de désembrigadement?
C'est moi qui ai demandé à ma mère. Elle a contacté Dounia, et ensuite, bah, je suis arrivée à Paris, et puis, ben, je viens. C'est que la deuxième fois, donc. Alhamdulillah. Parce que, franchement, au début, je vais pas vous mentir, dès que je suis arrivée et que j'ai vu la tête de Dounia, j'ai eu peur. On nous disait que c'était un Satan humain. On m'a dit, c'est le numéro 1 sur la liste, qu'il fallait la détester et tout. Du coup, forcément, ils nous disaient des choses comme ça. Comme nous, on est de leur côté, on les croit, on se dit, ah ouais, c'est pas quelqu'un de bien. Du coup, j'avais peur de ma réaction quand je la verrai, parce que plusieurs fois, j'ai eu envie de la taper et tout. Mais finalement, non, c'est un amour, cette dame.
Tu te sens moins seule?
Ouais, c'est sûr, on se sent moins seule, parce qu'on se dit qu'on est avec des jeunes qui ont vécu la même chose, ou pire, ou qui n'ont pas encore vécu ça, mais qui ont failli. Du coup, on peut s'aider par rapport à nos expériences.
À quoi tu rêves maintenant?
D'aller en Égypte. Pour faire des études au Caire, pour pouvoir bien comprendre ce que c'est vraiment la religion, et être sûre de ne pas retomber dedans, et pouvoir, si Dieu le veut, aider après les êtres jeunes qui ont voulu partir. J'ai envie de faire un désendoctrinement. Parce que je me dis qu'on ne devrait pas vivre ce qu'on vit là. C'est des choses vraiment traumatisantes. On ne sait pas. On se contrôle pas, en fait. On dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Moi, je sais que j'ai menacé le juge à plusieurs reprises. J'ai menacé de faire péter la France. Je fais apologie au terrorisme plusieurs fois. Donc, quand on fait ça, on ne sait pas vraiment ce qu'on dit. On n'est pas conscient. On n'est pas nous-mêmes, en fait.
«
France Culture, les pieds sur terre.
Alors toi, Laïla, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu avais été recrutée sur Facebook?
Oui, il y a eu un lourd endoctrinement. Mmh. J'étais au lycée. Mmh. Moi, je faisais ma petite vie tranquille comme une adolescente. Mmh. Et puis, jusqu'à qu'ils viennent me parler. Mmh. Et là, ça a tout bouleversé ma vie. Je voulais devenir infirmière et j'aime beaucoup les enfants. J'ai une passion pour les enfants. Et quand on montre des vidéos d'enfants qui demandent de l'aide, qui se font bombarder par le régime de Bachar al-Assad, du coup, ça touche tout le monde. Personne n'est insensible à ce qui se passe en Syrie. Donc sur Facebook, on s'ajoute, puis c'est venu comme ça, en fait. Et ils ont vu que je voulais aider les autres et tout, que j'étais sensible. Donc du coup, ils se sont servis de ça et de mon manque de science en religion pour m'entraîner dans tout ça, en fait. En fait, ils m'expliquaient les vidéos quand j'avais du mal à comprendre et tout. Au début, c'était les enfants que Bachar al-Assad gazait en Syrie, les petits Syriens. Et après, c'était sur les viols des femmes et tout. Après, sur les complots. Puis nous montrer des photos où ils allaient au kebab, des photos où ils reconstruisaient des maisons et tout, des vidéos où ils aidaient le peuple, où ils remettaient les bus en place, les pompiers et tout. Et du coup, voilà, ça attire, quoi. Je me suis dit, je me vois bien vivre là-bas. Marier avec des enfants. Oui, parce qu'on a toujours cette envie de se marier aussi quand on tombe là-dedans. On veut directement se marier, avoir des enfants. Être tranquille, vivre sur une terre musulmane et élever mes enfants dans l'islam. Et ça s'est fait rapidement. Et puis, ils m'ont envoyé vers une personne qui était en Syrie pour répondre à mes questions parce qu'il me disait qu'il fallait partir et tout. Mais j'avais quand même des questions. C'était ben, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Moi, enfin, je suis jeune, je n'étais pas mariée, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi? Je vais être où? Choses comme ça, quoi. Parce que je n'ai pas d'argent, voilà. Et puis, ils ont très bien répondu à mes questions, que j'allais être dans une maison avec des sœurs, que mon mari serait au combat, sinon j'aurais mon mari, que j'allais aider les orphelins, que je pourrais avoir même adopté un orphelin, aider les femmes, naninana. Je me disais que j'allais aider les autres. J'essaie de partir. En fait, un matin, pour partir à l'école, sans rien dans mon sac, en fait, juste des sous. Et parce qu'il m'avait dit que j'aurais tout sur place, il n'y avait pas de souci. Mais j'ai loupé le bus toute seule. Puis mes parents, après, ils ont commencé à avoir des signes de radicalisation et tout, parce que j'étais méchante avec eux, je disais des phrases horribles, mais je ne m'en rendais pas compte, en fait. Comme pour moi, c'était des mécréants et des ignorants. Donc du coup, je disais à ma mère qu'elle s'habillait comme... Voilà, elle s'habillait pas comme il fallait et tout, que c'était des mécréants, que les gens comme ça, ils valaient pas la peine et tout. Et du coup, ils ont fait un signalement parce qu'ils ont vu aussi des photos de femmes djihadistes sur mon téléphone et des appels inconnus la nuit. Et du coup, ils ont fait un signalement. Je me suis retrouvée devant la juge des enfants qui m'a commencé à mettre une mesure éducatrice, assistante sociale et tout, et une interdiction de sortie du territoire. Donc du coup voilà, j'étais bloquée. Et en fait j'ai arrêté l'école après parce que mes parents, ils avaient peur que je parte. Et puis je restais dans ma chambre enfermée, les volets fermés, et devant des vidéos, voilà, regarder les vidéos et les entendre parler par Skype. Je faisais des Skype avec les recruteurs, par téléphone, par Facebook. En fait, c'était constant, quoi. Il n'y avait pas un moment de répit. En fait, ils nous laissent pas tranquilles, ils veulent être sûrs qu'on vienne, quoi. Donc j'avais tout renié, j'avais renié mes amis, ma famille, ma vie d'avant, l'école, la scolarité, tout. Je m'étais coupée du monde. Je voyais que par eux, en fait. Et avec eux qui comptaient. Ils sont toujours là quand on se disputait par rapport à l'islam avec mes parents et tout. J'allais vers eux et tout. Et puis la relation qu'il y a entre les sœurs qui se fait, c'est impressionnant, quoi. C'est comme un cocon, on se sent en sécurité.
Tout ça par Skype ou Facebook ou téléphone.
Oui. Puis en fait, ce passage chez la juge... Ils se sont servis de ça pour me faire monter la haine, quoi. Donc du coup... ceux de Syrie. Donc après que je sois passée chez la juge, je voulais combattre. J'explique pas comment je change comme ça. Et je faisais partie de Jabhat al-Nusra et puis après de Daesh. Voilà. Du coup, des gens de Daesh ont commencé à venir me parler et m'ont recruté dans leur groupe à eux. Et du coup, voilà, après je voulais combattre auprès de mon mari, enfin de mon futur mari.
Parce que toi aussi, tu avais un futur mari sur Facebook?
Oui, bon, ils m'ont présenté plusieurs, hein.
Tous les jours, il y a des sœurs qui viennent te demander si je voulais me marier pour me présenter des frères. Et les frères, ils viennent en masse. Même des fois, ils se disputaient. Non, ne te marie pas avec lui, marie-toi avec moi. Non, mais c'est vraiment surréaliste, quoi. C'est après, pour ne pas se faire cramer sur Facebook, on passait par Skype, parce que c'est plus sécurisé. Bon, il y en a qui avaient des photos avec des armes et tout, où ils égorgeaient des hommes. Mais sinon, non, d'abord, c'était un dialogue avant la photo, quoi. Un garçon, il est venu me parler sur Facebook, puis il m'a dit qu'il voulait se marier et tout, et puis je lui ai raconté que j'avais raté ma tentative pour venir. Et en fait, il m'a fait passer en Skype, où on se voyait, et puis là, il m'a expliqué comment venir et tout. Et puis ensuite, il m'a dit, voilà, cherche une femme pour me marier. Enfin, il m'a demandé de me marier, j'ai accepté. C'est ridicule. Non. Il avait les mêmes envies que moi, quoi, combattre, il acceptait que je combatte. En dot, il allait me passer une calache. Enfin, moi, c'est tout ce que je rêvais, quoi. Ça peut être absurde, mais quand on est dedans, ben, ça me faisait rêver, en fait. C'est cette vie que je voulais. Combattre, mourir un martyr. Je voulais combattre sur le chemin d'Allah, faire le djihad, quoi. Pour mourir un martyr, pour la cause d'Allah. Pour défendre les Syriens, mais avant tout pour mourir un martyr.
Aujourd'hui, maintenant, avec le recul que tu as, tu peux m'expliquer ce que ça voulait dire de vouloir mourir en martyr quand on est une jeune et jolie jeune fille comme toi?
Ben, je voulais le paradis, je voulais atteindre le paradis. Comme ils nous disent que quand on meurt un martyr, ben, on atteint les plus hauts rangs auprès d'Allah. C'est tout ce que le musulman veut. N'importe quel musulman veut le paradis et atteindre les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et du coup, ben, ça me faisait rêver. En fait, j'avais tellement l'amour pour Allah que... Voilà, j'avais la foi. Et je l'ai encore, alhamdoulilah.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu renonces au fait de partir et d'aller combattre et de mourir en martyr?
Ben, j'ai voulu faire un attentat. Après, comme du coup j'ai eu un premier rendez-vous avec la police et tout, ils m'ont fait une audition, une première audition. Ils m'ont pris mon ordinateur portable et tout pour savoir où j'en étais.
Parce que tu as été signalée, c'est ça?
Oui, par mes parents. Et comme j'ai une copine aussi qui est partie là-bas, et ils m'ont fait une audition pour en savoir plus. Et donc là, je savais que c'était mort, que j'étais suivie de partout et tout, donc du coup, je pourrais pas y aller. Donc du coup, je m'étais dit, je vais faire des faux papiers. Et si je passe tout avec ça, ben, ils m'ont proposé de me retourner contre la France. Donc du coup, voilà, j'allais faire un attentat. Puis je me suis fait arrêter et ensuite, de voir mes parents dans l'état que je les avais mis, ben, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait réagir. Puis ensuite, d'entendre les témoignages du CPDSI, ben, ça m'a ouvert les yeux.
Et là, aujourd'hui, tu es ici dans ces réunions de désembrigadement. Depuis combien de temps tu viens dans ces réunions, toi?
Depuis septembre, après mon arrestation. Oh, ça fait 7-8 mois.
Et comment tu te sens aujourd'hui?
Très très bien. Je suis entourée par des bonnes personnes. Enfin, quand même, des fois, il y a des doutes encore. Enfin, c'est compliqué, il y a les cauchemars et tout, ouais, voilà, il y a des hauts et des bas. C'est pas facile de s'en sortir. Mais petit à petit, on y arrive.
C'est sur quoi les doutes?
Ben, qui dit vrai, qui dit faux, parce qu'on s'y perd à force. Parce que le CPDSI nous dit ce qu'ils disent faux, eux nous disent que le CPDSI dit faux. En fait, on sait plus qui croire. On se pose des questions. Et puis ça nous manque, le cocon qu'on avait avant et toute l'affection.
Ça fait un vide.
Ah oui, un gros vide.
Et vous ne retrouvez pas ça ici, quand même, puisque vous êtes quand même bien entourée
Oui, on le retrouve, mais c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes dialogues, les mêmes...
Vous avez la sensation d'avoir frôlé une catastrophe?
Bah ouais, forcément. On a failli partir dans un pays en guerre, on se serait fait violer, peut-être couper la tête, on aurait vu des choses horribles, on voulait aider les gamins, et puis finalement on apprend que c'est les gens avec qui on est qui les tuent, donc... Ouais, c'est chaud, quoi.
On tombe de haut, en fait.
On tombe de haut et très bas.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre et notre retour sûr du vendredi avec les jeunes filles radicalisées. Un reportage signé Leïla Djitli, réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Vincent Abouchard. Merci à Dounia Bouzar, à Leïla et à Samia. Sachez, depuis la première diffusion de ce reportage le 20 mai 2015, que nous avons eu des nouvelles de ces jeunes filles. La plus jeune, Samia, est sortie, d'après Dounia Bouzar, de la radicalité, mais elle est encore suivie par son centre de prévention. Samia, quant à elle, a réussi son CAP, elle commence son BEP. Dounia pense qu'elle est en voie de réengagement, dit-elle, dans le monde réel. Sandrine Chaperon, c'est bien sûr toujours l'attachée de production des Pieds sur Terre, avec Philippine Lebray. Dans un registre moins grave, je me permets de signaler aux auditeurs des Pieds sur Terre que pendant les 4 semaines qui viennent, où je m'absente de Paris, l'émission leur sera présentée par Delphine Saltel, productrice aux Pieds sur Terre. Merci à elle et bon après-midi à l'écoute de France Culture. Il n'y a pas que les pieds sur terre.